Bonsoir et bienvenue à l'espace musique, à la Bibliothèque publique d'information. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir en compagnie de nos voisins, collègues, amis de l'IRCAM pour cette soirée consacrée à Pierre Boulez, dont on célèbre cette année le 100e anniversaire de la naissance, comme vous le savez. C'est la 3e année consécutive, je crois, que nous nous associons avec le service de la pédagogie à l'IRCAM pour inviter des étudiants à rendre compte d'un travail qu'il réalise chaque année, donc avec un artiste. Cette année, Myriam Pruvot, artiste vocale, autour de Répond de Pierre Boulez, donc, et les étudiants, il faut que je les nomme, de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Voilà, si vous étiez là il y a 2 ans pour Xenakis, c'était déjà l'ENSAV. Voilà. Je remercie à la BPI Renaud Guisse et Alexandre Kerak au fond de la salle en régie, à l'IRCAM Juliette Mounier, Margot Fuchs au fond et Emmanuel Zoll devant moi. Et je passe tout de suite la parole à nos invités. Merci, bonne soirée à tous.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci à la BPI et à Xavier pour ce chaleureux accueil. Comme l'a dit Xavier, je m'appelle Juliette Mounier. Je travaille au département d'action culturelle de l'IRCAM. Donc l'IRCAM, pour le rappeler, Institut de recherche et coordination acoustique musique, qui donc mêle, comme son nom l'indique, recherche dans les technologies du son, dans le son et la création musicale. Donc qui a été construite par Richard Rogers et Renzo Piano, tout comme le Centre Pompidou. Et l'IRCAM a donc été fondée en 1970, par Pierre Boulez. Et donc, comme l'a expliqué Xavier, nous célébrons cette année, en 2025, le centenaire de Pierre Boulez. Et donc, à cette occasion, en fait, l'IRCAM a organisé plusieurs projets de médiation, notamment autour de Boulez et de son œuvre, et notamment de Répond, qui a été joué le 6 janvier dernier à la Philharmonie de Paris. Et donc, auxquels les étudiants ont pu assister. Nous, tout simplement, on s'est rapprochés en fait, de Gilles, puisque, comme l'a expliqué Xavier, on avait déjà travaillé avec lui les années passées. Et on s'est approchés de toi, Gilles, pour voir s'il était possible de mettre quelque chose en place. Et toi, tu nous as dit que, de ton côté, tu pensais déjà à travailler sur potentiellement le chant liturgique, donc avec Myriam et l'idée du répond, en fait, de la réponse, la spatialisation sonore. Et de là est née l'idée de cette table ronde. Peut-être que je vais un peu plus vous présenter. Donc Gilles, toi tu es enseignant et artiste plasticien, à l'école supérieure. Oui, voilà, l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, donc l'ENSAV, on va dire l'ENSAV, ce sera plus simple. Et également artiste plasticien. À côté de toi se trouve Myriam Pruvot, qui est artiste pluridisciplinaire et compositrice. À côté se situe Lubin Badia, qui est donc étudiant en troisième année à l'ENSAV. Et à côté de toi, Gay. Excuse-moi, également étudiante. Et juste là, derrière la télé, Pierre Carré, qui est réalisateur en informatique musicale et qui travaille à l'IRCAM et qui a donc travaillé sur Répond, en fait, et qui pourra nous en parler maintenant. Donc je vais te donner gentiment la parole. Est-ce que je te donne le...
Oui, ça va ? Bonjour. Comme on vient de l'expliquer, moi je suis réalisateur en informatique musicale à l'IRCAM. Alors c'est un nom un peu barbare pour désigner les personnes qui travaillent à la production de la réalisation de la musique avec les compositeurs, c'est-à-dire à réaliser la partie d'électronique, puisque c'est la partie technologique, on va dire, c'est là-dedans que l'IRCAM apporte quelque chose à des compositeurs qui viennent dans notre institution. Et donc c'est un travail qui est à la jonction de la recherche, de la création musicale et puis de l'interprétation aussi. Donc j'ai fait partie de l'équipe qui a joué, qui a interprété Répond le 6 janvier à la Philharmonie. Et donc, je vais vous introduire un petit peu cette œuvre en quelques minutes pour vous dire de quoi il en retourne, comment elle est construite et qu'est-ce que c'est. Donc, Réponse, c'est une des œuvres phares de l'IRCAM et de la musique électronique française, en tout cas, en général, qui a été créée entre 81 et 84. Il y a différentes révisions de la pièce. La grande nouveauté à l'époque, c'était que ça sortait d'un institut tout neuf, qui est l'IRCAM, qui avait été fondé quelques années auparavant, avec un ensemble aussi qui avait été fondé, l'ensemble intercontemporain, à la même époque. Et c'est une des premières, enfin c'est une pièce qui à l'époque était extrêmement ambitieuse en termes d'électronique. Déjà c'était de l'électronique live, c'est-à-dire que toutes les transformations du son sont faites en temps réel, ce qui n'était pas le cas de l'électronique qui existait jusqu'à présent, qui était de l'électronique pré-enregistrée. Voilà, là c'était vraiment une grande nouveauté. Et puis aussi par un peu la dimension de l'œuvre, à savoir qu'elle est longue, elle fait 45 minutes, il y a 6 haut-parleurs. Enfin, 6 groupes de haut-parleurs autour du public, un orchestre au centre et puis 6 solistes. Donc c'est quand même un dispositif important et qui demandait aussi un très gros équipement technique. Donc il y avait 2 camions qui venaient à chaque fois avec des rangées d'ordinateurs et des tables de mixage gigantesques pour pouvoir jouer la pièce. Donc voilà, c'était un peu une sorte de vitrine importante. Alors, je ne sais pas si... Voilà, donc là vous voyez un petit peu sur cette photo la disposition de l'orchestre et du public, à savoir que vous avez au centre un orchestre d'une vingtaine de musiciens, je crois, je me souviens plus exactement. C'est là que se trouve le chef également. Et puis autour de l'orchestre, donc pas dans une configuration habituelle où vous avez le public en face de l'orchestre comme vous avez dans des théâtres à l'italienne. Là, au contraire, vous avez le public qui entoure l'orchestre, qui est au centre. Et autour de ce public sont disposés 6 instruments solistes en hexagone. Ces instruments, ce sont 2 pianos, 2 percussions, donc un vibraphone et un xylophone / glockenspiel. Enfin, une harpe et un cymbalum. Un cymbalum, c'est une sorte de harpe couchée, si vous voulez, ou de piano sans clavier sur lequel vous allez jouer avec des petites maillotches. Donc c'est un son assez particulier. C'est un instrument traditionnel des Balkans, notamment. Donc tous ces instruments ont en commun une certaine proximité sonore, mais ils sont tous un petit peu différents, mais voilà, il y a quelque chose qui les relie un petit peu. On a bien cette idée de clavier, de clavier de corde, ou de clavier de lame pour les percussions, avec des sons qui sont non entretenus, c'est-à-dire qu'une fois que vous jouez l'attaque, et puis le son décroît naturellement. Contrairement à un violon, par exemple, ou une clarinette, vous pouvez entretenir le son. Voilà, donc il y a cette proximité entre les instruments qui crée à la fois, qui donne des possibilités de différence et de renouveau du son et de la matière sonore, et en même temps qui crée aussi des similarités. Et bien sûr, le compositeur va beaucoup jouer avec ces similarités. Alors l'électronique là-dessus, en quoi ça consiste? Eh bien, il y a également, donc il y a 6 solistes, et comme il y a 6 solistes, il y a 6 haut-parleurs qui sont disposés chacun entre les solistes. Donc vous avez 2 sortes d'hexagones imbriqués l'un dans l'autre, qui servent à diffuser la partie d'électronique. Donc comme je vous disais, c'est de l'électronique temps réel, c'est-à-dire que le son va être capté, le son des instrumentistes va être capté et transformé pour être immédiatement rejoué, avec donc des traitements, des modifications. Ce qui va être capté, c'est uniquement le son des solistes. Et il va passer dans différents effets qui sont assez simples dans leur principe et assez limités en termes de quantité, à savoir qu'il y a des changements de hauteur. Donc vous pouvez transposer vers l'aigu ou vers le grave les sonorités enregistrées. Vous pouvez aussi les décaler dans le temps, c'est-à-dire utiliser un délai. Ça, si vous avez déjà fait un petit peu de guitare, c'est une pédale d'effet qui est assez répandue. Et puis, bien sûr, ces sons, il va falloir les jouer sur les haut-parleurs, à savoir qu'on est habitué à une écoute stéréophonique avec 2 enceintes ou 2 écouteurs, un sur chaque oreille. Là, en l'occurrence, il y a 6 haut-parleurs, donc on se doute bien qu'il faut, il faut gérer différemment la diffusion du son. Et donc, dans cette pièce, voilà, la dimension spatiale n'est pas anecdotique, au contraire, c'est une des dimensions de la composition. C'est-à-dire que, au même titre que les hauteurs, les accords, les rythmes, etc., la spatialisation du son est une composante de l'écriture musicale. Voilà, donc la pièce donne à entendre beaucoup de traitements du son qui vont donner, on va dire, de manière très large, beaucoup de variations d'écho, en fait. Comme s'il y avait des instrumentistes virtuels, un peu chimériques, qui reprenaient ce qui vient d'être joué, ou alors des échos un peu, peut-être de manière un peu plus littérale, qui vont rebondir un petit peu tout autour du public, dans cette espèce de surabondance de reprises et de voilà, on ne sait plus trop où donner de la tête. Il y a beaucoup de moments où on est un peu submergé de tous ces événements sonores. Je ne vais peut-être pas en dire beaucoup plus, juste pour conclure sur le titre de la pièce, Répond. Donc, Répond, ça vient de, c'est de la même racine que Réponse, hein, même si l'orthographe est différente. Si cette orthographe a été choisie de cette manière-là, c'est que ça fait référence à une tradition d'écriture musicale, et je pense que ça va peut-être résonner avec la suite, qui est l'écriture responsoriale, c'est-à-dire que c'est celle que vous avez, par exemple, à la messe avec un officiant et des fidèles qui vont répondre au texte qui est aux litanies de l'officiant. Donc il y a ce principe-là qui décrit l'attitude des solistes les uns par rapport aux autres, des solistes par rapport à l'orchestre, et puis aussi de l'électronique par rapport aux solistes, puisqu'on a sans cesse ces effets de réponse, de reprise et de répétition, les uns se réinjectant les uns dans les autres, si vous voulez. Voilà. Et évidemment, l'aspect spatial va aussi correspondre à tout un tas de référents architecturaux. Quand on dit architecture, on pense bien sûr à la construction d'un édifice dans sa tridimensionnalité, mais il y a aussi un aspect acoustique et sonore qui est très important et qu'on relève pas forcément, qui semble plus anecdotique, mais qui en fait contribue beaucoup à créer l'architecture d'un lieu. Donc là aussi, il y a tout un tas de référents acoustiques qui vont se déployer dans la pièce et qui vont mobiliser la sensibilité et les connaissances que n'importe qui peut avoir d'expérience architecturale qu'il a pu avoir. Voilà, je pense que je vais arrêter ici ma présentation et laisser la parole aux autres intervenants.
Merci beaucoup pour cette présentation. Ça nous permet vraiment de comprendre un peu plus clairement la structure de Répond. Et aussi l'importance finalement de la spatialisation sonore dans Répond, qui était vraiment fer de lance en fait, on va dire, de l'IRCAM et donc de Pierre Boulez. Et donc là, je me tourne vers vous, Abbie et Lubin, parce que vous avez donc vu et vous avez entendu Répond le 6 janvier dernier à la Philharmonie. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire comment vous avez reçu en fait cette œuvre, comment vous avez reçu l'œuvre de Boulez?
Déjà, c'est assez surprenant parce que nous, comme seule indication, on nous a donné que le titre donc de l'œuvre s'appelait Répond et que ça allait être à la Philharmonie. Donc, on arrive dans cet espace qu'on n'a jamais découvert pour beaucoup d'entre nous. On arrive dans une pièce qui est hyper impressionnante, qu'on n'a pas d'habitude de voir dans des salles classiques musicales. Donc, ça, déjà, c'est très impressionnant et surtout. Quand on a commencé à entendre ce qui se passait, c'est absolument pas comme ce qu'on s'attend, comme de la musique classique par exemple, avec les mêmes instruments. Là, c'était vraiment plus des sonorités assez spéciales. C'est un enchaînement de plusieurs sons qui ont été faits avec plusieurs instruments différents et ça crée une harmonie, mais ce n'est pas comme les musiques classiques qu'on avait l'habitude d'entendre, donc... C'était une expérience assez intéressante et du coup qu'on n'avait jamais découvert. Donc voilà, c'était une très bonne expérience.
Mais déjà, c'est vrai que le cadre de la Philharmonie de Paris, c'est quand même un cadre qui est assez exceptionnel et c'est vraiment une belle opportunité d'avoir pu assister à ce concert là-bas. Et moi, je trouve que ce qui m'a le plus marqué, c'est la sensation d'être vraiment immergé dans l'œuvre, en fait, parce que au départ j'avais remarqué qu'il y avait certains instruments qui étaient un peu répartis aussi dans les tribunes, dans le public. Après, on les voyait pas tous, mais enfin moi j'avais vu une harpe en premier notamment, et bah comme l'a dit Abby, on n'avait pas forcément d'indication sur le déroulé de la pièce, et donc c'était un peu surprenant de pendant la deuxième partie de la pièce de voir le son nous envelopper comme ça grâce aux instruments qui étaient disposés donc en hexagone dans les tribunes. Et donc je trouve que c'était une bonne surprise aussi de voir que ces instruments-là étaient utilisés comme on pouvait se le demander, mais pas forcément s'y attendre, quoi.
Ok. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le concert, il a été le début du workshop. En fait, on peut dire ça comme ça. Ça a été la porte d'entrée, en fait, vers le workshop. Et donc là, je me tourne vers toi, Gilles. Comment, en fait, tu as pensé ce projet, en fait, avec les étudiants et les étudiantes
ouais. Donc, en école d'architecture, il y a des cours de son, souvent, mais ils sont assez théoriques. Et, donc, il y a des cours d'acoustique. Ils ont des cours un peu d'heures d'acoustique, mais voilà. On essaie de compléter ça avec des expérimentations sonores. Donc, essayer de découvrir les espaces sonores de manière plus expérimentale, voilà. Et suite à la proposition de l'IRCAM de nous faire participer à ce projet, j'ai repensé à une exposition de Myriam Pruvot à la Maréchalerie, puisqu'on a la chance d'avoir un centre d'art à l'école de Versailles. Donc Myriam Pruvot avait fait une installation sonore. Et on l'avait rencontré, elle nous avait parlé aussi d'un travail de chant dans les espaces. Voilà, et ça m'a paru tout à fait évident de l'inviter pour participer à ce workshop, sachant que ce serait une interprétation du travail de Pierre Boulez, le résultat serait assez éloigné, mais en tout cas qu'on aurait la possibilité de travailler dans des espaces avec le chant. Et aussi, donc, on a pris le parti de ne pas ramener d'électronique en plus ou de son amplifié, de travailler vraiment juste avec l'espace et le groupe des étudiants, donc 56 étudiants, dans l'espace, voilà, avec la voix. Voilà. Et j'ajouterais que le workshop s'est passé en deux parties sur 6 jours. Les trois premiers jours, on a fait un travail de portrait sonore des lieux, donc cartographie sonore, expérimentation les yeux fermés pour découvrir l'espace sonore de ces lieux, dans lesquels après on est revenu avec Myriam pour faire des expérimentations par le chant. Voilà.
Ouais, et donc en parlant de ces expérimentations les yeux fermés, Abby Lubin, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous ? Est-ce que ça vous a donner une sorte de perception nouvelle de l'espace sonore, d'avoir, de faire une sorte de balade des yeux bandés.
Franchement, je trouve que ça nous a été hyper utile parce que quand on arrive dans un lieu, on se dit pas tout de suite qu'on va analyser les sons qu'on entend de ce lieu. On passe et on entend ce qu'on entend, mais on se focalise pas dessus. Et les yeux bandés, du coup, ça nous enlève tous nos autres sens. Donc, on est vraiment obligé de se focaliser sur ça. Et donc, on perd toute notion de l'espace. Mais par contre, on entend des choses qu'on n'aurait jamais entendues, je pense, si on avait les yeux ouverts. Voilà.
C'est vrai que c'est un bon moyen aussi de se rendre compte des bruits qui nous entourent et auxquels on ne fait pas attention au quotidien. Parce que, enfin, surtout dans le cas du parc, c'est un endroit où on passe comme ça sans jamais forcément se poser la question de savoir... vraiment d'où viennent les sons qui nous entourent. Et là, en l'occurrence, il y avait un chantier à côté. Il y a le conservatoire de musique à côté, donc on peut entendre un peu de musique aussi. Il y a juste les bruits de la nature aussi, du parc, les bruits de la ville, les voitures qui passent. Et c'est des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Mais qu'en ayant les yeux bandés, on est privé de nos sens, comme l'a dit Abby, de nos autres sens. Donc c'est un moyen porter une nouvelle attention à ces bruits-là, un peu du quotidien, quoi.
Oui, c'est ça. Et donc, cette première phase du workshop a donné lieu... et à des cartes sonores, donc là, qui sont exposées juste à côté de vous, et aussi à des portraits sonores vidéo. Et là, on en a un, c'est d'ailleurs c'est ton groupe, Lubin. Oui. On peut la faire passer. Merci beaucoup. Je me dis, Lubin, est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on vient de voir ?
Oui, alors en fait, l'idée de cette vidéo et de cette captation sonore, c'était un peu de recenser tous les différents bruits qu'on pouvait trouver dans le parc, donc en marchant sur différents types de sol, que ce soit du gravier, de la pelouse, des feuilles mortes ou je sais pas la terrasse en bois aussi, de voir un peu, enfin c'était un peu une sorte de parcours en fait dans le parc qui nous a permis de recenser ces bruits là et après en termes de représentation, donc on a fait une sorte de stop motion avec des photos et parce que c'était aussi dans la consigne de travailler en photographie. Et voilà, donc l'idée, c'était vraiment de recenser un petit peu ces sons-là. Et par rapport à la carte sonore qu'on a vue assez brièvement, là, l'idée, c'était aussi un peu de classifier les différents sons. Donc là, on voit dans la légende les bruits techniques comme le bruit de la climatisation, les bruits de chantier, il y a les bruits de la flore, donc que ce soit les oiseaux, les plantes. Enfin, c'était un peu faire une sorte de recensement des sons et de les classifier.
Ok. Donc effectivement, ça c'était le résultat des trois premiers jours. Et donc c'était la première semaine. Et la deuxième semaine, en fait, a été consacrée à une deuxième partie du workshop avec Myriam, qui a été plutôt conçue, animée par toi, Myriam. Et donc je me demandais quelle a été donc ton approche, en fait, quand tu as pensé cette partie du workshop, et même en prenant en compte notamment le fait qu'on partait aussi de répondre de Pierre Boulez, comment tu as réussi à faire dialoguer ton travail avec celui de Boulez finalement?
C'est assez intéressant parce qu'on en avait discuté un petit peu avec Gilles sur le fait que au départ je me suis posé la question de comment j'allais effectivement me relier à Boulez, sachant que j'ai un peu une pratique qui est quasiment aux antipodes, qu'il y a quelque chose qui est très très éloigné dans ma démarche et dans ma pratique et même dans mon parcours académique. Et puis finalement, rentrant dans l'œuvre, en m'y intéressant, j'ai trouvé plein de correspondances et j'ai trouvé ça assez pertinent. Voilà, la première porte d'entrée, c'est que l'exposition que j'ai réalisée l'année dernière à la Maréchalerie, qui est le centre d'art de l'école de l'ENSA de Versailles. C'est un centre d'art qui est très particulier parce qu'il a une architecture assez tubulaire. Il fait quasiment 10 mètres de haut. C'est quasiment un instrument en lui-même. Et il y a aussi évidemment toute la charge du patrimoine du lieu. Et je dois dire que moi, j'avais une vision de Boulez plutôt comme un compositeur très cérébral. Et puis en allant voir l'œuvre, pour moi, tout d'un coup, j'ai découvert peut-être quelque chose qui était plus baroque, d'une certaine manière, chez Boulez, et empreinte sacrée, ce qui m'a surprise. L'exposition, moi, je l'avais intitulée « Chant éloigné » parce que c'est en référence à un vers de Rilke, de Rainer Maria Rilke. Et moi, j'avais travaillé sur les airs de cour et j'avais travaillé avec un instrumentarium vraiment typique de l'époque des airs de cour, mais j'avais décidé de placer les instruments dans l'espace de manière à vraiment exploiter toute l'acoustique du lieu. En l'occurrence, par exemple, il y a un corps de chasse qui était vraiment destiné à être projeté sur la paroi vitrée, parce qu'il y a une énorme baie vitrée dans la salle d'exposition. Et par contre, j'avais décidé de permettre aux spectateurs et aux spectatrices d'avoir une circulation libre de l'écoute, donc d'être dans une démarche finalement, dans une forme de continuation aussi, de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un concert, qu'est-ce que c'est que l'endroit de l'écoute, avec peut-être la différence aussi, c'est que là, ça a été le cas des étudiants, mais c'est aussi dans le cadre de mon travail. Moi, j'utilise beaucoup de field recording que je mélange à de la musique ancienne et de la musique expérimentale, donc aussi des sons impurs entre guillemets, donc qui sont différents, on va dire, de la musique instrumentale telle que composait Boulez. Et finalement, voilà, ce qui était intéressant, c'était de revenir à ce titre et de voir que dans la démarche de Boulez, il y avait aussi cette ambition d'emphase, de cathédrale électronique, et que quelque part, ma propre relation à la musique ancienne et à la musique sacrée arrivait par un chemin de traverse complètement différent, mais que il y avait finalement plus de connivence que ce que je pouvais le croire, en tout cas entre Boulez et moi. Je passe juste quelques secondes de la musique que j'ai réalisée pour cette pièce. Can you hear me? Come closer. Can I tell you a story? You're here, in this space, facing the street. It's cloudy. The sun just came out. It's not really busy today. Now, you can't hear a thing. But please focus.
There may be a sudden sound. A tiny frequency. 400 years ago, on the cobblestones.
Je vais, la pièce dure 30 minutes, donc je ne vais pas vous la passer. Mais peut-être pour terminer aussi, ce que je trouvais intéressant avec les étudiants, c'était de, une chose aussi qui m'a semblé importante dans cette œuvre-là, c'était le fait qu'il y ait une sorte de parole quantique, d'une certaine manière, dans le fait de vouloir communiquer aussi avec un temps très ancien et une démarche avant-gardiste. Et voilà, pour moi, c'est aussi un rapport, voilà, je trouvais aussi intéressant avec les étudiants et les étudiantes d'architecture qui sont aussi constamment confrontés à la question du patrimoine, mais aussi de penser des nouvelles architectures, de qu'est-ce que c'était du, à l'endroit du son ou de la musique, d'avoir aussi un rapport, alors moi j'aime bien parler de temps queer dans le sens de, d'un rapport aussi non linéaire au temps. Et je trouvais voilà, que dans le fait de, par exemple, faire... s'hybrider de la musique électronique et une pensée, par exemple, comme tu disais, de musique liturgique, il y avait aussi quelque chose qui était peut-être à saisir pour les étudiants dans cette manière, en tout cas, de réfléchir à ce que c'est que la modernité. Et bon, ça, c'est juste quelques images de l'exposition. Pour donner aussi un peu le contexte, voilà, je travaille beaucoup avec des instrumentistes de musique ancienne, mais dans des cadres qui ne sont pas des cadres de concert, où je les fais jouer aussi dans des extérieurs. Et voilà, et donc quand Gilles a proposé ce workshop, voilà, assez rapidement, on s'est dit qu'on avait envie un peu de s'émanciper de la question de la diffusion et d'avoir une grosse machinerie et d'être libre dans les corps et donc de partir plutôt sur l'idée de, d'expérimenter avec des instruments et de la voix avec un groupe de 60 quasiment étudiants. Pour certains... instrumentistes, musiciens et puis des chanteurs et des chanteuses qui se sont révélés aussi. Au cours du workshop, voilà.
Je voulais juste rapidement revenir sur le fait qu'en fait, c'est, donc cette deuxième partie du workshop aussi a eu lieu donc, et dans le jardin des senteurs, qui avait été, dont on a vu une vidéo tout à l'heure, et la salle du jeu de paume, qui sont du coup des acoustiques vraiment différentes. Et je me demandais pourquoi ce choix en fait, de ces lieux, finalement, pour le workshop.
Quand on a fait une visite préalable avec Gilles, je pense qu'on a aussi poursuivi cette idée de lieu comme instrument. Vraiment de partir des propriétés acoustiques des lieux et le jardin, donc ce jardin qui se trouve à Versailles un peu particulier parce qu'il est un petit peu entouré de façades, ce qui fait qu'il est un peu préservé des bruits de la ville et c'est une espèce comme ça un peu d'îlot sonore où il y a une qualité particulière aussi de rebond. On peut entendre voilà, avec des surfaces. Et puis la salle du jeu de paume, qui a un côté beaucoup plus solennel, qui est une salle tout en bois, qui donnait un timbre très boisé à tout ce qu'on y met, tout ce qu'on y introduit. Et donc, on s'est imaginé que l'expérience déjà spatiale et sensible des lieux pouvait être la première des saveurs, en tout cas, à donner aux étudiants et aux étudiantes.
Super. Bah moi, je vous propose qu'on regarde un petit peu le résultat de ce travail, les captations vidéo et sonores.
Il y a quelques images du workshop que je fais défiler très rapidement. Qui sont les photos de la salle du jeu de paume avec Abby. Et donc ça, c'est la première vidéo, c'est le jardin des senteurs.
Waouh. J'ai presque pas envie de parler. J'ai l'impression de briser quelque chose. Quelle voix, hein. Avant de passer peut-être à un moment d'échange avec le public, je voulais vous demander, vous, en fait, qu'est-ce que vous retenez finalement de ce workshop avec Myriam, ce travail en fait avec vos voix.
Déjà, je me suis découvert un talent de chanteuse. Et c'est des choses qu'on n'avait jamais abordées, même en workshop. Et là, je pense que d'avoir déjà avant travaillé sur les éléments sonores et après d'y avoir ajouté la voix, je pense que ça a vraiment ajouté quelque chose qu'on n'aurait pas pensé pouvoir faire. Et surtout, je ne m'attendais pas à une telle cohésion de groupe, parce qu'au final, tout le monde s'est prêté au jeu. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché. Et de nous être entraînés aussi dans des salles comme la Nef, par exemple, qui avait aussi beaucoup de concordance avec ce lieu, ça nous a aussi aidés pour la préparation de cet exercice, ouais, je pense.
Et moi, je trouve ça assez intéressant, surtout d'avoir tout ce côté un peu expérimental, surtout vis-à-vis du fait qu'on a des cours d'acoustique, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, pendant l'année, et avoir ce côté un peu expérimental et de pouvoir vraiment mettre en œuvre ce qu'on a étudié, c'est peut-être ça que j'ai trouvé le plus intéressant et que je retiendrai du workshop, à mon avis.
Oui, et même en tant que futur architecte, qu'est-ce que en fait vous pouvez retenir finalement même de l'entièreté du workshop sur l'espace sonore et comment vous allez peut-être le percevoir maintenant? Peut-être c'est trop tôt, hein, peut-être que vous en rendrez compte plus tard, mais est-ce que vous avez l'impression déjà d'avoir des choses qui vont pouvoir vous rester pour plus tard?
Peut-être la méthode un peu d'analyse entre guillemets du lieu, vraiment expérimentale, c'est un bon moyen de se rendre compte de la sonorité, de l'acoustique d'un lieu, plutôt que de juste étudier les caractéristiques spatiales sur un plan ou un document graphique. C'est bien d'aller voir et d'expérimenter par soi-même, je trouve.
Et je pense que du coup, maintenant, on a cette perspective du lieu qui a changé, puisque je pense que maintenant, si on se pose dans un espace, on aura plus tendance à se concentrer sur les sons qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. En fait, je pense qu'il faut réellement se concentrer et faire attention à tous ces bruits qui nous entourent. Et je pense que c'est à ce moment-là que nous, par exemple, en ayant fait cet exercice, on a pu vraiment se focaliser sur ces sons. Et maintenant, je pense qu'on peut en faire profit pour le reste des lieux qu'on aura à visiter, par exemple.
C'est super, alors. Ça a bien fonctionné. Je pense que là, je peux peut-être ouvrir un peu la parole au public, même si vous, dans la table ronde, vous avez des questions les uns pour les autres. On peut faire circuler un micro, Xavier. Et là, n'hésitez pas.
Quelle est la partie préférée Quelle est votre partie préférée que vous avez Non. Qu'est-ce que vous avez préféré faire dans le workshop?
Moi, je pense que c'est le chant. notamment dans ce lieu qui est la salle du jeu de paume, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte tant qu'on n'y est pas, mais quand on est en groupe et que réellement on chante ensemble, il y a une cohésion qui se crée et un effet sonore qui est tellement incroyable. Enfin, dans toutes les salles où il y a de l'écho, on peut le ressentir et c'est quand même assez émouvant. Enfin, on ne pensait pas que la musique, ça pouvait être émouvant à ce point, mais quand on le vit et qu'on y est, franchement, c'est hyper impressionnant.
Mais je suis assez d'accord, mais surtout même quand on compare avec l'autre lieu où on a chanté, donc le jardin, qui est un espace qui est quand même, enfin, même s'il est entouré par des murs et des bâtiments, ça reste quand même un espace plus ouvert. Et autant dans le jardin, quand on était les deux groupes éloignés, chacun à un bout du jardin, on s'entendait pas vraiment chanter, on s'entendait vraiment que quand on se croisait. Alors que là, dans la salle du jeu de pommes, grâce à l'écho, à toute la résonance, ça crée vraiment une ambiance qui est hyper spéciale. Et c'est très beau.
Merci, hein, merci pour tout. C'est par rapport à Madame Pruvot. Alors, vous mélangez donc de la musique liturgique avec de la noise, c'est ça? Ou en fait, c'est quoi? Vous faites une gymnastique, c'est-à-dire c'est par rapport à votre formation académique. Votre formation académique, c'est la musique vocale et ce à quoi vous tendez, c'est de faire de la noise mélangée avec de la musique liturgique.
Moi, j'ai un parcours d'artiste visuel au départ, donc je viens plutôt des Beaux-Arts. Après, si j'ai introduit ça de cette manière-là, c'est peut-être aussi pour distinguer par rapport à la démarche d'une démarche de composition instrumentale. Voilà, moi j'ai une manière d'hybrider en tout cas les sons, et quand je parlais de noise, en l'occurrence dans l'installation qui a été faite à la Maréchalerie par exemple, il y avait des instruments de musique donc baroque, mais il y a aussi un usage de bandes de cassettes magnétiques que je travaille. Donc quand je parlais de noise, en fait, c'est-à-dire que c'est un rapport à la matière instrumentale qui est peut-être plus basé sur mon parcours de plasticienne. Je l'évoquais aussi parce que en préambule, voilà, je m'interrogeais de qu'est-ce qui pouvait, par exemple, faire écho ou rebond entre quelqu'un qui a fait un parcours d'art sonore dans une école d'art et qui a une pratique un peu hybride de field recording, de chant, et Pierre Boulez, qui est un peu un monument de la musique contemporaine. Et comme j'aime l'expliquer, je perçois en tout cas une sorte de continuité, même si que le geste de Boulez à un moment donné de venir mettre la musique électronique, venir mettre des effets, et c'est un geste qui a mon âge et finalement a une incidence sur la manière après dont les étudiants d'école d'art ou les jeunes artistes sonores aussi abordent presque de manière un peu profane l'idée de mélanger des différents types de registres d'instruments, donc de la musique électronique avec des instruments d'ensemble, et en ce qui me concerne des instruments de musique ancienne, de la voix et des bandes magnétiques d'autres types de... Que cette hybridité, finalement, elle a tout à fait une forme de continuité dans le temps.
Oui, bonsoir. En fait, je voulais savoir que signifiaient les paroles qu'on a entendues. Enfin, c'est facile à retenir, parce que c'est toujours un refrain.
Alors, de base, c'était juste un entraînement pour nous échauffer la voix. Et en fait, c'est juste un ami du groupe qui nous a appris cette chanson que sa mère lui récitait quand il était petit. Et au final, on a trouvé ça intéressant de l'utiliser, mais ça devait être un échauffement. Et au final, ça c'est devenu un peu la base de ce travail. Voilà.
Et qu'est-ce à voir avec les paroles liturgiques que je viens d'entendre ? Je ne sais plus.
Parce que c'était un son de... Enfin, je ne sais pas si c'est un lien, mais c'était un son de scout que sa mère lui avait appris. Et après, quand on l'a récité... Enfin, la première fois qu'on l'a appris, c'était dans la nef. Donc, la nef, c'est un espace à l'école qui est très résonnant, avec une hauteur sous plafond énorme. Et donc, il y a énormément d'écho. Et donc, quand on s'est entraîné et qu'on a appris la chanson, ça apparaissait... Enfin, ça ressemblait au chant liturgique qu'on a l'habitude d'entendre. Et voilà.
Est-ce qu'on a une autre question ? Parce que sinon, moi, je me demandais, en fait, Abby t'a dit que tu t'es découvert un talent, tu savais pas que tu chantais aussi bien ?
Pas du tout. Je chantais juste sous ma douche, mais j'ai jamais chanté dans quelconque endroit. Donc, mais c'est un exercice que j'ai adoré, donc... Je vais essayer de le reproduire.
Oui, j'étais sur place et c'est vrai que c'était très beau d'être dans l'espace au même moment. Bon là, c'est quand même très joli, hein, évidemment, mais sur place, c'était vraiment joli. Non, pas de questions. Vous en avez peut-être, non, pas plus que ça.
Une petite remarque sur peut-être que le serment du jeu de paume n'aurait pas eu lieu. Si il n'y avait pas eu cette résonance dans cet espace qui invite aux grandes déclarations. Alors en tout cas, le lieu est chargé de quelque chose. Et je pense que ça, tout le monde l'a ressenti. Autant l'espace du jardin était... ça se perdait un peu, le son, on l'entend. Autant l'espace du jeu de paume, il y a une sorte de contenant. Donc l'architecture joue vraiment un rôle au niveau sonore. Parfois destructeur, c'est-à-dire on ne s'entend plus parler. Et parfois, justement, focalise l'attention. C'est ce qu'on a vraiment ressenti dans celui-là. C'était intéressant de comparer, d'ailleurs, c'est un lieu extérieur où le son s'envole et un lieu intérieur où il est contenu.
Justement, j'ai trouvé que c'était parfait d'utiliser le premier exercice des sens sonores dans ce jardin et après d'être plus focalisé sur le jeu de paume pour tout ce qui est chant, etc. Parce qu'on arrive bien à ressentir l'identité des deux éléments et ça colle parfaitement avec ce qu'on a fait.
Est-ce que quand vous vous déplaciez, le chemin était déjà tracé ou c'était aléatoire en fonction de vos envies ?
Non, on a réfléchi à des sortes de partitions en fait où on était divisé en plusieurs groupes. Donc il y avait un groupe qui travaillait le chant au départ, un groupe qui travaillait ces partitions-là, et le but c'était de réfléchir justement au déplacement pour essayer de tirer au mieux profit de chaque lieu et de ce qu'ils ont à offrir en termes de spatialité, d'acoustique et de résonance entre autres. Mais donc on s'est basé sur les cartes qu'on a fait notamment et sur les différents enregistrements qu'on a pu expérimenter notamment dans le jardin mais aussi au jeu de pommes. Et à partir de ça, on a donc fait les fameuses partitions qui programmaient un peu nos déplacements. Et après on s'est entraîné de toute façon, on a marché, on a essayé différentes allures, différents de chanter en canon ensemble. Enfin, c'était aussi du test quoi.
Ouais, je peux peut-être juste ajouter que c'était vraiment aussi dans la démarche pédagogique d'inviter les étudiants à occuper toutes les fonctions, c'est-à-dire que nous on a déterminé les lieux avec Gilles, mais ce sont donc les étudiants qui ont pratiqué une forme de collage sonore, donc ce chant qui un chant de scout qui a été comme samplé pour l'occasion, ce sont leurs instruments, ce sont eux qui ont élaboré les partitions spatiales, ce sont eux qui ont filmé, ce sont eux qui ont enregistré. Et donc la démarche aussi pédagogique, c'était aussi d'envisager la composition et l'espace par tous ces points d'entrée qui sont qu'est-ce que c'est que de créer une partition spatiale sur un plan 2D, de la capter, de l'écouter à travers un microphone, de la chanter, de la performer, et puis de la regarder, de la et de l'enregistrer. Donc c'était aussi
les propositions qu'on a vues sont aussi leurs œuvres.
Ouais, j'ai peut-être une dernière question sur ce qu'on a entendu pendant la performance. C'est vous qui disiez ça au début, il y a eu un apport électronique, c'est ça ? Ça a été enregistré, on est d'accord, mais...
J'ai juste présenté Répond comme une sorte d'introduction à, qui était un peu le point de départ du workshop, mais il n'y a pas eu d'utilisation ultérieure après d'effets qui étaient dans la pièce.
D'accord, d'accord.
Donc là, il n'y avait pas d'électronique, autant que je puisse...
D'accord, donc ce qu'on a entendu, c'est purement naturel, avec l'espace, le champ, d'accord.
Du coup, les seuls éléments qu'il y avait pour cet exercice, c'était des instruments que des élèves ont ramenés pour le workshop et nos voix. Et après, ça a juste été enregistré comme ça avec les tests qu'on a fait, mais il n'y a aucune modification sonore apportée.
S'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on va pouvoir terminer cette discussion, cette table ronde. Merci vraiment à toutes et à tous pour cette table ronde, en fait, pour ce résultat. Et merci aussi à vous pour votre attention. On va clôturer cette soirée, je pense, et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée et un bon week-end.